Radio, Génération 90-2000, avec Jérôme Zano.
Nouveau numéro de notre podcast Génération 90-2000, et aujourd'hui les L5 sont avec nous. Salut les filles.
Salut.
Bon, je vous dis la vérité, là c'est un grand podcast pour moi parce que j'ai grandi avec vous. On défend les L5 ici et les années 90-2000, quasiment 25 ans, on va arrondir qu'on a découvert presque. Presque à un an près, hein, si je dis pas de oui, bêtises. Comment ça va aujourd'hui? Comment on regarde un petit peu ces 25 dernières années?
On les regarde avec beaucoup de nostalgie, nous aussi en fait.
Ouais.
Donc on est ravis aujourd'hui de faire partie de cette vague nostalgique qui nous apporte à nous beaucoup de bonheur et plein de souvenirs qui nous ont aussi fait du bien à l'époque et qui nous en font encore plus aujourd'hui, quoi. Et de retrouver ce public qui est toujours là, ouais. 25 ans après. Ils n'ont pas changé.
On regarde ces années en arrière et cette vague avec beaucoup de fierté aussi et de surprise, parce qu'il faut dire ce qui est, on a du mal à réaliser justement que presque 25 ans après, on puisse encore parler de nous, on puisse encore chanter nos chansons, ouais. Et avoir de belles déclarations comme tu viens de nous faire, parce que c'est très touchant, merci beaucoup.
Mais c'est vrai, hein, pour le coup, et en plus de ça, c'est pas que nous, la génération qui avons vraiment connu le boom des L5 à leur début, même maintenant les gamins, pardonnez-moi l'expression, hein, mais les gamins connaissent vos chansons aussi.
Oui, alors ils connaissent nos chansons, mais ils connaissent pas nos visages.
Non.
Parce qu'ils écoutent ça en boîte et, ouais. Et quand ils se rendent compte que c'est nous, ah mais on les connaît pas ces filles-là. Eh bien oui, c'est nous qui chantons ça. Ils se rendent pas compte, ouais.
Au final, ça doit être bien, hein, pour aller vivre sa petite vie en vrai.
Oui, c'est pas mal aussi.
C'est le parfait équilibre aujourd'hui, ouais. Je trouve, oui. Ouais. Parce qu'effectivement, on est encore au devant de la scène, on est remise au devant de la scène grâce à ce programme nostalgique qui vient là, et en même temps on peut mener nos vies privées tranquilles, quoi. C'est pas la cohue de l'époque, voilà, pas du tout.
Vous en gardez des bons souvenirs quand même, parce que c'est vrai que vraiment il y a eu une espèce de raz-de-marée avec vous, c'était
c'est
quelque chose, hein.
Des bons et des mauvais, et
ouais
des
mauvais,
c'est ce que j'allais dire, c'est mitigé en fait, c'est à dire qu'aujourd'hui à l'âge qu'on a, avec l'expérience qu'on a, le bilan il est plutôt positif, faut dire ce qui est. Mais quand on revient un peu des fois en arrière, on se dit waouh, c'est un peu violent du jour au lendemain comme ça de devenir quelqu'un de connu. On n'apprend pas, hein, y a pas d'école pour la célébrité. C'est pas évident.
Ouais.
Honnêtement, c'est pas évident. Ouais.
En plus, ça a créé un lien fou finalement entre vous.
Ah ben oui, on a vécu une histoire énorme. Comme on dit, c'est l'histoire de notre vie. Donc même, je pense que jusqu'à la fin, on aura ce lien quoi qu'il arrive, hein, qui ait eu des disputes ou pas, peu importe qu'on s'entende bien ou pas, il y aura toujours cette histoire jusqu'au bout. C'est comme ça.
Et une histoire qui a commencé, qui a cartonné avec un morceau que vous retrouvez toute la journée sur M Radio à n'importe quel moment, mais particulièrement dans les années, dans le classique 90-2000, dans le 16-20 sur M Radio, c'est Toutes les femmes de ta vie. La question que je me pose, c'est comment elle est arrivée à vous, cette chanson? Parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas, les gens qui écoutent ce podcast ou qui nous regardent sur les réseaux sociaux, qui ne connaissent pas l'arrivée, parce que c'était vraiment une machine, ça a été un rouleau compresseur.
Oui, tout à fait. En fait, à l'époque, en même temps que le public, on va dire, a quelques mois de différence pour la diffusion télévisuelle, on découvre le studio où on va enregistrer notre premier album, on découvre nos titres. Voilà, on nous les fait écouter, on nous demande pas notre avis à cette époque-là. On nous dit voilà, on a sélectionné 12 titres pour vous, c'est cela, voilà. Donc évidemment, on vient tous de l'amateurisme, notre grand rêve est en train de se réaliser. Toutes les chansons nous parlent, toutes les chansons font vibrer nos cœurs. On a hâte de s'y mettre, de bosser. Et Toutes les femmes de ta vie n'est pas la première chanson qu'on enregistre. Voilà, ça, on commence par Une étincelle. Donc, qui est un single aussi très fort, voilà. Et puis plus tard vient Toutes les femmes de ta vie, sans savoir que ce sera le single. Donc on l'enregistre comme on a enregistré les autres chansons de l'album, tout simplement. Le composite de voix est choisi, voilà. Il y a une histoire entre-temps de texte qui a été changée, mais j'ai pas envie de peut-être trop m'étaler. Je crois que l'histoire.
Je connais pas moi l'histoire.
Ah, tu connais pas l'histoire?
Non,
d'accord,
non.
Ok, pardon.
Elle a une vraie histoire.
Alors, cette chanson, donc c'est un Suédois qui l'a écrit, hein, composé, qui s'appelle John Steinbeck, qui a écrit pour Madonna, Like a Virgin, ce morceau-là notamment, et bien d'autres. Voilà. Et cette chanson, donc, a un texte en français qui a été écrit par Ophélie Winter et son frère.
D'accord.
Qui s'appelle N'aie pas peur de jouer. Et on se met derrière le piano, derrière nos pupitres de lyrics. Et Richard Cross essaie de nous faire bosser donc le morceau, le placement, etc. Et puis là, on s'aperçoit tout de suite que c'est compliqué, qu'on a du mal à faire coller les sonorités. Ça swingue pas vraiment, ça accroche en bouche, les pieds tout simplement qui ne rentraient pas. Et ça donnait « N'aie pas peur de jouer, viens laisse-toi guider. La partie n'est pas gagnée, n'aie pas peur de tenter de te mesurer à moi. »
Et incroyable, parce qu'en plus vous l'avez encore au fond du crâne.
Mais ça nous a marqué, parce que
ça nous a traumatisé.
Donc vous l'avez pas essayé une fois.
Non, on l'a bossé.
Fait, vous l'avez bossé.
On a réellement bossé. On a mis notre cœur à l'ouvrage.
Je vous dis la vérité, ça marche pas.
Ben voilà.
Non mais vraiment, ça marche pas.
Si, tu as pas vu les images, mais quand ils nous ont filmé en train d'essayer de placer la chanson, on faisait des têtes.
Mais alors, authentique, authentique.
Une porte de prison. Une porte
cachée
de prison.
Je vois les films, mais non.
Mais qu'est-ce que
pas,
c'est
quoi.
Que ce texte ça rentre pas.
Ça sonne pas.
C'est pas beau.
Ah ouais.
Sur la porte, rien contre Ophélie Winter. Hein,
non
mais,
et puis
ça rentrait pas.
On était même plutôt fiers à l'époque. Moi, je me souviens de dire Ophélie Winter nous écrit un titre. Enfin,
oui, un texte.
Dommage.
Et alors, qui prend la décision de changer les paroles ?
Toute la direction artistique de chez Universal et M6 qui prennent donc le problème à bras le corps. Ils disent, bon, alors là, il faut absolument qu'on mette des auteurs sur le coup, parce que ce titre, ils le pensaient déjà single, sans nous le dire. Hein.
Ouais.
Et donc, hop, ils nous mettent les deux auteurs qui étaient principalement là sur le premier album et qu'on adore et qui vraiment déchirent. Voilà. Et ils pondent Toutes les femmes de ta vie. Et là, ça nous parle direct en termes de texte, enfin de sens, voilà, de profondeur, et puis aussi de sonorité, ça le fait, quoi. Toutes les femmes de ta vie, c'est toutes les femmes de ta vie. Et voilà. Et un jour, on apprend que ça sera le premier single. Et quelques semaines après, on apprend que ce premier single est numéro 1 du top.
Ça a été un des singles les plus vendus de la chanson française. C'est incroyable.
1 400 000 exemplaires.
Quasiment 1 500 000.
Ouais. Quasiment 1 5 000. Et ce que je me rappelle la référence, parce que nous, on n'avait aucune référence. On ne savait pas ce que c'était de vendre 1 000 000 de disques, etc. Ouais. C'était qu'en une semaine, on avait vendu plus de singles, d'exemplaires que Michael Jackson.
C'est fou. Hein.
Non, oui, qui sortait un album en même temps.
C'est ça. Ouais. Plus que l'album. Mais c'était l'album, c'était même pas le single. Hein. On a vendu plus d'albums que Michael Jackson en une semaine. Mm. Ouais. Moi qui suis, moi, c'est mon idole, donc du coup j'étais par terre, quoi.
En France, hein.
Oui,
en France.
Oui, mais oui,
évidemment.
Non,
évidemment.
On remet les choses en contexte.
Non, je suis sûr que les gens
dans le monde.
Que...
Non, mais vous ferez partie de l'histoire de l'industrie de la musique, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a le streaming qui fait que plus personne ne vendra 1,5 million de singles en France, c'est pas possible. 25 ans quasiment, à un an près, on le dit, ça fonctionne toujours. Il y a cette tournée aussi à I Got a Feeling, tournée des années 2000, vous êtes avec tous les gens qu'on connaît et qu'on aime chanter pour le coup. Il y a le Dôme de Paris le 13 et le 14 mars 2026. L'aventure est folle de se retrouver sur scène comme ça.
Et là, ça va être génial, parce qu'on a eu vraiment une chance immense de pouvoir faire une date avec, avec cette tournée. C'était le test, puisque bon, malheureusement, ce soir-là, Lisa a eu des soucis au niveau des transports. Elle n'a pas pu se rendre à la date et on nous a appelé un peu
la dernière minute,
la veille pour la veille.
Ouais.
C'est ça, la veille pour l'endemain.
Et donc, ok, notre agent nous appelle, etc. Demain, quand demain ? Ah ok, d'accord. On a pris un train, on est tous montés à Paris. On savait pas trop ce qu'il fallait faire, etc. On nous a dit si, allez hop, c'est bon, ça va le faire. On se dit, nous, on va le faire. On est monté sur scène. Ouais. Surtout quand les gens ne viennent pas pour nous. Là, ils attendent Alizé quand même, quoi.
Ouais.
Donc, elle a eu une super délicatesse. Elle a fait un très beau message pour prévenir les fans en disant qu'elle ne serait pas là, mais qu'elle avait une surprise.
Ça vous a donné un avant-goût.
Honnêtement, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu les foies comme ça avant de monter sur scène.
Ouais.
Comment vous l'expliquez ? Parce que vous en avez fait quand même des scènes. Hein.
C'est tout simplement ce qu'elle disait tout à l'heure, le fait qu'on remplace une artiste et qu'on ne nous attendait pas ce jour-là.
C'est pas un concert gratuit, quoi. C'est les gens payent leur place pour voir tel et tel artiste.
Bien sûr.
Et ils savent pas qu'on est là. Et on sait pas quel accueil ils vont nous réserver.
Après, il y a peut-être une bêtise à la base aussi, c'est de pas avoir pensé à vous caler sur une date comme ça, parce que quand on parle des années 2000, non mais les filles, là vraiment je fais pas de la politique. On s'est parlé avant le podcast, je fais pas de la politique. C'est idiot de pas y penser.
Non, ils y avaient pensé. C'est qu'il y avait beaucoup d'artistes sur le plateau et que
c'est
ils avaient dans l'idée de nous intégrer.
Et comme c'est fou que vous dans votre tête vous êtes dit peut-être que on va pas avoir un public qui va recevoir.
C'est vrai.
Le fait qu'il y ait les L5 sur scène.
Mais oui, mais parce
dans
que
un
c'est
contexte
nous,
des années 2000.
Il s'agit de nous et que le recul ouais. est beaucoup plus difficile déjà, d'une part. Et d'autre part, c'est que, comme vous le constatiez, on ne nous sommes que trois aujourd'hui.
Ouais.
Et le public, souvent, avec ça, ben, c'est... on ne sait pas. C'est adopté aujourd'hui.
C'est ce que j'allais dire, c'est pas récent, on le sait.
C'est pas récent.
Et en vrai, on a fait notre deuil aussi, finalement, en tant que public. Non, mais c'est vrai. En vrai, c'est un deuil. C'est tu rigoles, mais c'est ça en plus, hein, pour le coup. Hein. Non, non, franchement,
oui,
pour M Radio, les L5.
M Radio, Génération 90-2000, avec Jérôme Zanot.